Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Comment cela se passait-il avant, sinon jadis du moins naguère, sous la 4e République pour être précis, au tout début des années 50, le président de la République. On connaissait sa voix par la radio, son visage par les actualités au cinéma. Un homme âgé, mais pas aussi vieux que le Père Noël. Surveillé, protégé en permanence, déjà, par les services de sécurité. Dans la série « Le quart d'heure des grands reportages », un quart d'heure d'une demi-heure, cela dit, Stéphane Pizzella s'intéressait à la vie à l'Élysée. Nous étions le 3 mars 1950 sur la chaîne parisienne.
Ce matin-là, rue du Faubourg Saint-Honoré. Ce matin-là, comme tous les autres jours de l'année, à 9h moins un quart, face au numéro 55 du Faubourg, la garde de l'Élysée s'en est la relève. À 7h, il y a peu de badauds dans la rue encore engourdie où les boutiques de luxe, une après l'autre, lèvent leurs rideaux de fer. Mais derrière la grille que franchit la garde montante, cette journée, comme tous les autres jours de l'année, a commencé dans la grisaille qui suit l'aurore, à la lumière des lampes, il y a, on peut le dire presque exactement, 3 heures. À 6 heures ce matin-là, un homme s'est tiré du sommeil. S'il décroche son téléphone, s'il pose le doigt sur un bouton, des portes s'ouvriront, des valets, des huissiers accourront à son appel. Mais la grande maison d'heure est cet homme aux nuits courtes, qui respecte le repos de ceux qui l'entourent, est seul. Un moment, les bruits quotidiens de la salle de bain écartent le silence. Puis, les gestes familiers s'accomplissent. Comme d'habitude, cet homme pose sur un réchaud la petite casserole où, la veille, un valet a préparé une tasse de café. Et c'est devant une table chargée de dossiers, de dépêches, qu'il déguste à petites gorgées ce café matinal. Puis, repoussant la tasse, ouvrant un dossier, dans le silence de l'immense demeure, cet homme se met au travail. La journée de Monsieur Auriol Vincent, président de la République française, et commencer. Lorsque, quittant sa chambre, il descend à son bureau, il a pris connaissance des dépêches diplomatiques, des informations des préfectures, lu les journaux qu'on lui a apportés. La première personne à pénétrer dans le bureau présidentiel est sa secrétaire, Mademoiselle Genesti. Courrier, affaires urgentes, puis affaires diplomatiques présentées par M. Kosciusko, directeur de cabinet. Dans le même ordre, toujours, les entretiens se succèdent. Avec M. Forgeot, secrétaire général de la présidence qui présente les dossiers du courrier et des principales affaires et met le président en relation avec le secrétaire général du gouvernement, établit la liaison avec le conseil supérieur de la magistrature. Puis le général Grossin, chef de la maison militaire du président, vient soumettre les affaires militaires à l'étude desquelles ont participé son adjoint le général Campana, le commandant Soir, le colonel Pouillade, héros de Normandie-Niemen, et le capitaine de vaisseau Blouet. Le dernier collaborateur à pénétrer dans le bureau du président lui apporte les journaux annotés par M. Rénal, chef des services de presse, et le met au courant des affaires d'ordre intérieur. C'est M. Auriol Paul. Alors commencent les audiences. Elles prennent fin en principe à 13h30 pour reprendre à 14h30 et se prolonger jusqu'à 20h. Entre-temps, lorsqu'il y a séance à la chambre, grâce à un appareil spécial directement branché sur le palais Bourbon, le président suit, heure par heure, les événements qui s'y déroulent. Cet ordre, quasi rituel, est rompu 3 jours par semaine. Les samedis et dimanches, pendant lesquels le président se retire à Marly ou Rambouillet, et le mercredi, journée réservée le matin à partir de 9h au Conseil des ministres, et l'après-midi au Conseil supérieur de la magistrature. La journée de M. Vincent Auriol, président de la République française, ne se termine jamais avant minuit ou 1h du matin. C'est à cette heure-là que le président, parfois libéré des soucis de sa charge, prend le temps de relire quelques pages de ses auteurs favoris, les grands classiques. Je vous ai fait, à dessein, une nomenclature rapide qui décortique une journée du premier magistrat de France. Dans la sécheresse volontaire de cet exposé, aucune silhouette, rien de vivant. Pourtant, ce premier magistrat de France est un homme comme les autres. Vous avez vu son portrait dans les journaux, vous l'avez vu sur les écrans des cinémas, peut-être l'avez-vous aperçu au cours d'une cérémonie officielle, certainement la radio vous a fait connaître sa voix avec cet accent qui évoque les gaves et les rocailles de son pays natal. De l'avis de tous ceux qui l'ont approché, c'est l'homme le plus simple que l'Élysée ait connu. Et cette simplicité lui gagne d'emblée toutes les sympathies. Pour ma part, je ne l'ai approché que deux fois. La première, je m'en souviendrai toujours, faillit être un désastre. Ça aurait été un désastre, véritablement, avec tout autre que Monsieur Vincent Auriol. Cela se passait à l'exposition du Don Rothschild à la Bibliothèque nationale. La foule des visiteurs s'empêtrait dans les câbles de la radio qui traversaient la salle. Une quinzaine de policiers suivaient discrètement le président. Celui-ci, penché sur un ouvrage rarissime, s'extasiait. Je voulus, comme l'exigeait mon métier, recueillir ses réflexions, et comme le président les formulait à voix basse, j'approchais un micro. À ce moment, brusquement, il releva la tête, et le micro que je tenais rencontra le visage du président. Ce fut un moment de stupeur parmi les inspecteurs chargés de sa sécurité. Je n'étais pas très fier. Mais le président, me regardant bien en face, éclata de rire et grommela, avec un regard malicieux qui démentait sa mauvaise humeur, « Eh bé, eh bé, eh bé !» La seconde fois, c'était à l'arbre de Noël de l'Élysée. Des clowns, des musiciens jouaient pour 200 enfants. La salle des fêtes était pleine de rire. Pour le président, le spectacle n'était pas sur la scène, mais dans la salle. Il riait aux larmes de la joie de tous ses enfants. Il se déplaçait souvent afin de les mieux voir, tous. Ce soir-là, il n'y eut pas d'incident avec la radio, mais avec M. Jean Noël. Écoutez.
Monsieur Bonhomme, excuse, voilà un petit garçon qui voudrait avoir l'honneur, au nom de tous ses petits camarades qui sont là, de vous dire merci. Voilà, c'est un petit écolier dont le papa a été porteur, c'est ce que tu nous as dit, n'est-ce pas ? Il pousse une charrette. Alors dis-le, Monsieur le Président, tu vois ? Voilà, donc, Monsieur le Président va serrer la main à ce petit garçon, et comme ça, il serra la main à tous les petits garçons qui sont là. N'est-ce pas, monsieur ? C'est vous, c'est un ambassadeur, Monsieur le Président.
Je l'embrasse.
Voilà, il l'embrasse. Bravo, Monsieur le Président. Merci. Alors, tu es fier, Georges. Tu es un bon élève, Monsieur le Président.
Mes petits amis, en l'embrassant, je vous ai embrassé tous. Et je vous remercie du merci que vous m'avez adressé. Je ne suis pas le Père Noël. Je ne suis pas aussi vieux que lui. Et vous êtes tous nos petits-enfants et vous êtes jeunes.
Vous êtes ému, vous êtes content, dites merci, Monsieur le Président. Parce que voyez-vous, ça n'est pas seulement le père de la France, c'est aussi un de mon père, et ça se voit, Monsieur le Président.
Ah,
ça...
ah non, vous n'êtes pas gentil de dire que ça se voit.
Ça s'entend.
Ah, d'accord.
C'était à l'Élysée une véritable fête de famille. Parmi les enfants, une dame de très grande allure, Madame Vincent Auriol, se promenant d'un bout à l'autre de la salle, le président. Une chose, dont je ne méconnais pourtant point l'utilité, m'agaçait. La surveillance continue, discrète mais présente autour de M. Auriol, de tout un appareil policier. Et je demandais à l'un des chefs de cette surveillance, « Est-ce que vous n'importunez pas le président ?» Et il me répondit « Oui. » Au début surtout. À présent, il s'est habitué à nous, il sait que c'est une chose nécessaire. Ce service de sécurité, c'est le premier auquel vous vous heurtez en pénétrant dans l'Élysée. Derrière les gardes en sentinelle, un bureau filtre les visiteurs. Vous remplissez deux fiches avant d'être admis à voir la personne demandée. Votre fiche est recopiée sur un registre 10 ans, 20 ans après votre visite, on saura par une simple recherche que tel jour à telle heure, vous avez été reçu à la présidence par tel ou tel personnage. Face au bureau des huissiers, le bureau des inspecteurs. Jusqu'en 1932, ce bureau était occupé par des fonctionnaires de la sûreté. Depuis, c'est en 1932 que le président Doumer fut assassiné à une exposition d'écrivains anciens combattants, la sécurité du président de la République et de sa famille est assurée par la police judiciaire. Ce service de sécurité comprend 23 éléments, dont un directeur, deux commissaires, deux inspecteurs principaux, tous choisis parmi le personnel d'élite de la police judiciaire. Ils ont pour mission de surveiller l'Élysée, Rambouillet, Marly, le château de Vizille, les séjours privés du président. Leurs consignes sont établies en accord avec le commandant du palais. La première de ces consignes, c'est ne rien voir, ne rien entendre. Dans le coffre du directeur dort un dossier, plan secret, le plan secret de défense de l'Élysée. De tous les souverains, le président de la République, au dire même d'expert, est le mieux gardé. Cette garde n'a rien de spectaculaire, comparée par exemple à celle qui environne le président Truman. Il m'a été permis d'assister à un déplacement du président Roosevelt à Washington. Des motocyclistes ouvraient le chemin. Encadrés par de puissantes voitures de police, l'automobile du président fonçait à toute allure. C'était une voiture découverte. Trois hommes se tenaient debout sur chaque marchepied, une main accrochée à la portière, l'autre enfouie dans une poche, doigt serré sur un Colt. Pour le président Auriol, rien de semblable. Personne ne se doute que les cinq hommes qui l'encadrent discrètement dans un défilé avec ordre de ne pas le laisser trop libre de ses mouvements, se rapprocher de la foule, s'éloigner du cortège officiel, personne ne se doute que ces cinq hommes sont prêts, en cas d'incident, à se servir de leur première arme, une petite matraque en caoutchouc. Et, le cas échéant, à utiliser le pistolet automatique. Les 23 gardiens personnels sont tous armés de la même façon. Matraque et pistolet, avec ordre de ne tirer qu'en cas d'extrême urgence. La voiture présidentielle est mieux armée. Deux pistolets, une mitraillette. Si vous parlez à l'un quelconque des inspecteurs chargés de cette mission délicate, veillés à la sécurité du président, vous ne tardez pas à être frappé par le fait que tous considèrent leur mission non pas comme une consigne, un devoir à remplir, mais comme un honneur, et qui font leur métier non seulement en professionnel, mais en homme qui apporte à leur tâche un sentiment, que l'Élysée me pardonne ce mot, d'amitié affectueuse. Car on aime le président à l'Élysée, et on aime peut-être plus Vincent Auriol que Monsieur le Président de la République. Surtout si vous parlez à l'un de ces inspecteurs, ne faites pas comme moi, ne demandez pas, vous seriez très malvenu. En somme, avec vous, le président n'a rien à redouter. Il trouverait la question déplacée, mais pour peu qu'il soit en veine de confidence, il vous dirait très simplement et sans bluff, je vous assure, ici, voyez-vous, il n'y en a pas un d'entre nous qui ne préférerait se faire descendre plutôt que de laisser toucher au président. Lorsque l'homme de la rue cherche à définir un chef d'État, il le fait non pas en fonction des prérogatives, des honneurs qui s'attachent à la charge de ce chef, mais en essayant de le dépouiller, et il imagine semblable aux autres hommes. Il se demande comment vit-il, aime-t-il la musique, les animaux, quel sport pratique-t-il, en un mot, est-ce qu'il vit comme les autres hommes ? Pour M. Vincent Auriol, la réponse à ces questions est aussi simple que sa personne, que sa vie. Voilà un homme né en 1884, docteur ès lettres, député de Muret depuis 1914, ministre. Sa vie est droite, sans heurts. Si l'on aime à marquer les destins d'un signe, le signe sous lequel on placerait la vie de M. Vincent Auriol et celui de la famille, de l'amitié. Le président a le culte de l'amitié. Sa bonté paraît n'avoir pas de limite. Il aime la vie familiale simple, très simple. Son fils unique, Paul, a 30 ans. Monsieur Auriol ne semble jamais s'apercevoir que Monsieur Auriol Junior est un homme, père de famille. Pour lui, il est resté l'enfant. Il lui a gardé la même tendresse qui se manifeste par des gestes d'amitié et de fréquentes accolades affectueuses. La passion du président, ce sont ses deux petits-fils. Ils suivent les cours du lycée Sévigny en classe de 7e et 9e. Et tout petit-fils du président de la République qu'il soit, il leur arrive assez fréquemment de rentrer à l'Élysée avec un œil au beurre noir. Ce sont des enfants comme les autres. Turbulents, farceurs. L'aîné aime taquiner son grand-père. Et son grand-père qui adore cela joue le jeu. Il joue même à cache-cache avec eux derrière les arbres de la petite propriété de Marly, la propriété que préfère le président. Petite maison de 5 pièces, tranquille. À Marly, le président qui est un passionné de la marche peut faire de longues promenades. Son sport favori, la pêche à la mouche artificielle. Il est meilleur pêcheur que chasseur. Mais on assure qu'il a fait de réels progrès au fusil. Il aime chasser seul, avec son chien Sasso, le faisan et la perdrix. Il aime moins les battues. À Muret, le président taille lui-même ses arbres fruitiers et surveille tout particulièrement ceux qui lui donnent des pêches savoureuses. Gourmet mais pas difficile, M. Vincent Auriol apprécie le cassoulet, bien sûr, les confits d'oies, les pâtés d'oies, mais le plus souvent préfère un beefsteak pommes frites et les légumes verts. Pour lui, les bordeaux rouges sont les premiers de tous nos vins, et s'il lui arrive de savourer un alcool, c'est un petit verre d'Armagnac. Voilà, dans toute sa simplicité, l'homme de l'Élysée. D'humeur égale, gai, enjoué, le président coupe ses soirées de travail par quelques moments de détente. Il lit. Ses auteurs préférés, Molière, Chateaubriand, La Fontaine. Il écoute la retransmission d'une pièce de théâtre ou d'un concert. Il a pour Beethoven une prédilection. Tel est, dans la vie qui coule dans ce palais, Faubourg Saint-Honoré, l'homme qu'un jour de 1947, l'Assemblée de Versailles portait à la présidence, M. Auriol Vincent. Depuis, le citoyen de Muret, devenu premier citoyen de France, ne s'appartient plus. Il appartient à vous, à moi, au pays. Sa vie est contrôlée minute par minute, et ces minutes sont enregistrées. Depuis le 17 janvier 1947, cet homme comme les autres, Auriol Vincent de Muret, n'est plus un homme comme les autres. J'ai découvert cela un jour de la semaine dernière, dans une cave de l'Élysée, froide, silencieuse. Contre les murs des étagères, sur les étagères des dossiers, sur la couverture des dossiers des indications. Voyage à Saint-Nazaire. J'aurais pu le feuilleter, ce dossier. Je n'en ai pas eu le courage. Je savais que j'y trouverais des choses dans le genre de celle-ci. 9h03, le président monte en voiture. 10h07, le président reçoit, etc., etc. Les autres dossiers contiennent les rapports sur ses conférences, entrevues, réceptions. Un homme comme les autres. Un homme comme les autres ? Écoutez. Un jour, M. Vincent Auriol a reçu 3 amis à sa table. Un déjeuner intime, privé. Comme dirait l'homme de la rue, ça ne regardait que lui. Eh bien, demandez à M. Paul Auriol de vous conduire dans la cave aux archives. Sur une étagère, vous trouverez un album. Dans cet album, les pages ont 3 colonnes. Dans la première s'inscrit la date. Dans la seconde est collé le menu. Dans la troisième figurent les noms des convives. Tout ce que fait l'homme de l'Élysée est contrôlé, consigné, classé, étiqueté, conservé. Chacun de ses actes, presque de ses gestes. Le citoyen Auriol Vincent de Muret a cessé le 17 janvier 1947 d'être un homme comme les autres. Mais si vous l'avez approché une seule fois, tout ce que je vous ai dit ne tient pas. Ce n'est qu'apparence. Si vous avez approché une seule fois le président de la République française, vous ne pouvez pas ne pas avoir remarqué que pour vous, pour la population de Saint-Nazaire, pour ces gens qui l'ont fait pleurer d'émotion, pour le peuple, il est encore, il est resté Vincent Auriol. Je dis ici, avec toute mon indépendance, quitte à déplaire sans doute à certains personnages, ce que je pense comme je le pense. Si vous croyez que j'ai réalisé cette émission en service commandé, détrompez-vous. Ce n'est pas dans mes habitudes. Et si je vous ai dit tout cela comme je l'ai senti, c'est que, soyez-en persuadés, lorsque j'ai voulu écrire sur ces feuillets en tête desquels j'avais mis pour seul titre « Président de la République », lorsque j'ai voulu écrire ces feuillets que j'ai fait appel à l'image du président en habit, la poitrine barrée du grand cordon, entourée de ministres ou d'ambassadeurs, j'ai vu avant toute chose un homme en veston, un homme souriant, M. Vincent Auriol, 55 Faubourg Saint-Honoré. La seule chose que j'appréhende dans cette émission, mais je n'y changerai pas un mot, c'est qu'elle ne sera pas tout à fait au goût de M. le Président de la République. Et je lui demande humblement qu'il veuille bien me pardonner. Sa simplicité, sa modestie, par ma faute, si le Président m'écoute ce soir, sont impitoyablement soumises à la plus rude des épreuves. Mais je n'ai jamais su résister à l'appel de la vérité. Et tout cela que vous avez entendu, tout, c'est la vérité. Si vous en doutez, renseignez-vous, demandez, posez des questions. non pas dans l'entourage du président, mais à ses adversaires politiques, même les plus sectaires. Aucun ne pourra me démentir. Cette marque distinctive de M. Vincent Auriol, la simplicité, vous la trouvez autour de vous dans chacun de vos pas à travers l'Élysée. Pourtant, quelle vie bizarre que celle de ce palais, quelle histoire. Quelles pages d'histoire se sont gravées à l'angle de la place Beauvau au 55 du faubourg Saint-Honoré. Vous connaissez l'extérieur, une guérite, un garde, des agents. La grande grille Second Empire. Lorsqu'elle est ouverte, on peut apercevoir au fond de la cour, sur le gravier de laquelle il est interdit aux visiteurs de marcher, un perron, une porte vitrée. Derrière cette porte, l'uniforme du chef des huissiers et le grand lustre en cristal. Ce coup d'œil jeté de la rue laisse présager du luxe qui règne en ce palais. Et savez-vous ce qu'est ce palais? Savez-vous ce qu'il était à son origine? Un monument à l'avarice. Le défi d'un grand, l'orgueil d'un courtisan. Au fait, laissez-moi vous prévenir, je vous ai montré de mon mieux, moins bien certes que je l'aurais voulu, le président. À présent, qu'il me soit permis de vous faire visiter ses appartements. Ils ont leur histoire et le comte d'Evreux pour père. Ce gentilhomme ruiné avait épousé pour redorer son blason la fille d'un banquier. Sa nouvelle condition ne tua pas son avarice. Un jour qu'il sollicitait une faveur, le régent lui répondit « Je vous apporterai dans votre hôtel le brevet que vous me demandez. » Le comte d'Evreux habitait une maison pauvre et le régent qui le savait le vexait en lui rappelant ainsi. Evreux fit bâtir un hôtel, il y reçut le régent, obtint son brevet de colonel et cet hôtel est celui du 55 Faubourg Saint-Honoré. Construit en 1718, il devint en 1753 propriété de la Pompadour. La marquise commençait à se faner. Elle avait 32 ans. Depuis 8 ans, elle était la favorite. Cet hôtel, pour elle, devint une retraite. Elle passait la plus grande partie de ses heures dans son boudoir. Napoléon III a fait placer dans ce boudoir les portraits de François-Joseph, de la reine Victoria, de Nicolas Ier, d'Isabelle d'Espagne, de Guillaume de Wurtemberg, de Pie IX. Les portraits sont toujours là. Et le boudoir est devenu le bureau du colonel Fouillade. Mais de son temps, la Pompadour aimait à y faire de la musique. Et le jour où je me suis trouvé seul dans cette pièce, j'ai inévitablement évoqué ce fantôme et un air oublié.
Après elle, d'autres musiques à l'Élysée. La musique commandée par le nouveau maître, le banquier Beaujon, pour le groupe admirable de ses berceuses. Vous n'avez pas entendu parler des berceuses de Beaujon? Elles étaient les plus belles des femmes de Paris, les plus spirituelles, les plus agréables. On y faisait bonne chère dans cet hôtel et d'excellente musique. Mais Beaujon ne savait, ne pouvait en jouir. Il faut croire Madame Vigée-Lebrun lorsqu'elle rapporte ce dialogue entre le valet de chambre de Beaujon et un visiteur anglais. « Votre maître doit faire une bien excellente chère. » Et le valet avec un soupir. « Hélas, monsieur. Mon maître ne se met jamais à table. On lui sert seulement un plat de légumes. » Passant dans un salon où étaient exposés des tableaux, l'anglais demande « Voilà du moins de quoi réjouir ses yeux. » Second soupir du valet. « Hélas, monsieur, mon maître est presque aveugle. » Et dans le salon de musique. « Ah, il s'en dédommage, j'espère, en écoutant de la bonne musique. » Troisième soupir du valet. « Hélas, monsieur, mon maître n'a jamais entendu celle qu'on fait ici. Il se couche de trop bonne heure. » Sortant alors dans le jardin. « Mais enfin, votre maître peut jouir du plaisir de la promenade. » Quatrième soupir du valet. « Hélas, monsieur, il ne marche plus. » À ce moment, entrent de jolies personnes invitées à dîner, les fameuses berceuses. et l'Anglais de s'écrier « Enfin, voilà plus d'une beauté qui peut lui... » À ce moment-là, cinquième soupir du valet qui interrompt l'Anglais « Hélas, monsieur, hélas !» Et il n'ajouta pas un mot. Et les clavecins, les orchestres commandés par Beaujon l'étaient pour les belles berceuses de ce temps-là. Après Beaujon, plus de musique à l'Élysée, mais un défilé de prêtres défroqués, de sorcières, d'illuminés, d'adeptes de Mesmer. On y faisait tourner les tables, on y invoquait les esprits. La femme qui acheta l'hôtel d'Evreux en 1787 se faisait appeler citoyenne vérité. Elle s'adonnait aux sciences occultes. Elle avait un fils. Il mourut criblé de balles dans un fossé de Vincennes. Duc d'Enghien. Cette femme, duchesse de Bourbon, sauvée de l'échafaud par miracle de neuf thermidors, cessa de s'occuper des sciences occultes le jour de la mort de son fils. Depuis, elle s'enfermait dans sa chambre et à longueur de journée, jusqu'à l'énervement, ses gens entendaient une musique toujours pareille, celle que cette mère avait choisie pour endormir sa douleur du fossé de Vincennes. En 1795, l'hôtel d'Evreux devient garde-meuble. En 1797, il retourne à la duchesse de Bourbon. Ruinée, elle en loue une partie pour 18 000 livres par an pendant 9 ans à Jeanne la Violette. Jeanne la Violette et son mari, Owen, y tirent des feux d'artifice, donnent des balles, des concerts avec entrée payante, 3 livres. Je ne sais plus qui a décrit ces balles où l'on voyait des beautés au corsage savamment échancré, de façon qu'on put voir, sous la gaze artistement peinte, palpiter les deux réservoirs de la maternité. On dansait à l'Élysée, au bal de Jeanne la Violette. On dansait chez Jeanne la Violette. Et on y assistait également à des attractions. Mais déjà, le ministre qui en était chargé veillait de près sur la moralité. C'est ainsi que dans le mois de juin 1797, une attraction fut interdite. Celle de Jacques Garnerin, qui devait s'élever en ballon en compagnie d'une femme. Elle fut supprimée sous le prétexte que le spectacle de deux personnes de sexe différent s'élevant dans les airs est immoral. À défaut d'autre action, on dansa, et savez-vous qui conduisait l'orchestre ? Jean-Paul Gilles Scharzendorf. Ce nom ne vous dit rien. C'est le nom réel d'un certain Martini qui composa Plaisir d'amour. Il avait échoué là à cause d'une plume. En effet, à sa sortie du conservatoire, ne sachant comment orienter sa vie, il monta sur une tour à Fribourg, et du haut de la tour, il jeta dans le vent la plume de son chapeau. Le vent l'emporta dans la direction de la France, et le jeune homme se dit « Mon avenir est là-bas, à Paris. » Plaisir d'amour lui donna raison. D'autres musiques retentirent sous les lambris de l'Élysée, dans les somptueuses soirées que donnait ce général si raffiné, si cultivé, malgré la légende qui en a fait un soudard, Joachim Murat. Napoléon lui avait acheté l'Élysée en 1808 pour 950 000 francs. Murat dépensa 1 million pour le remettre en état. Un exemple des goûts de Murat est dans la grande galerie appelée « Salle à manger Murat ». Fond blanc et filet d'or, mobilier empire, 4 lustres à gradins avec sur le pourtour de leur plus grande ceinture des bronzes dorés finement sculptés. Chez Murat, se déroulaient les fêtes les plus somptueuses. Chez Murat se déroulaient les fêtes les plus somptueuses, mais, après lui, l'hôtel d'Evreux, qui ne devint Élysée Napoléon qu'en 1809, abrita pendant 2 ans Joséphine divorcée. Puis, après Waterloo, un soir de juin, l'Élysée accueillit un voyageur exténué, Gourgaud, Caulaincourt, Lucien et combien d'autres l'entouraient. Pâle, épuisé, il se jeta sur un lit en murmurant « L'armée a fait des prodiges ». Ney s'est conduit comme un fou. 3 fois, j'ai vu la victoire s'échapper, la destinée. Ah, laissez-moi dormir 2 heures. 2 heures plus tard, malgré la foule qui dans la rue l'acclamait, répondant à Gourgaud, ce n'est pas le peuple qui me dépose, c'est la peur. Dans le salon d'argent, Napoléon Ier abdiquait. Les Tuileries avaient marqué son apogée, l'Élysée marquait sa chute. À quelques années d'intervalle, un homme partait de l'Élysée pour arriver aux Tuileries, Napoléon III. L'Élysée. Pour le peuple, Évreux, la Pompadour, Beaujon, Murat sont oubliés. Il n'est autre chose que la résidence des présidents de la République. Pour cette fin d'émission, je vais laisser la parole au président actuel. Et pour vous faire entendre sa voix, j'ai cherché les derniers mots de M. Auriol. J'ai remonté les années jusqu'à ce 17 janvier 1947, où dans une salle de Versailles, le député Vincent Auriol acceptait le mandat que l'Assemblée lui confiait. Il l'acceptait bouleversé avec ses mots. Les premiers mots du premier président de la 4e République.
Monsieur le président du Parlement, monsieur le président du gouvernement provisoire, vous m'excuserez si je parviens difficilement à maîtriser mon émotion. Je suis profondément ému du vote de confiance et d'amitié que le Parlement vient d'émettre.
Et ce soir-là, face au numéro 55 dans le Faubourg Saint-Honoré, ce soir-là, la première fois depuis 7 ans, les clairons de la garde avaient sonné pour M. Vincent Auriol, président de la République française.
C'était le quart d'heure des grands reportages, 24 heures à l'Élysée, par Stéphane Pizzella. Première diffusion sur la chaîne parisienne, le 3 mars 1950. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant 1 an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».